Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RTL ce soir pour une nouvelle édition de notre émission. Et c'est un peu une émission entre parenthèses, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout de suite, parce que à la une, ce soir, nous vous présentons le bestiaire de l'heure du crime. Pendant des siècles, en effet, surtout du XIIIe ou XVIIIe siècle, les animaux coupables d'avoir commis un vol ou la destruction d'un bien ou encore d'avoir causé un grave accident ou même provoqué la mort de quelqu'un étaient jugés par des tribunaux civils ou ecclésiastiques selon l'époque. La justice les faisait comparaître. Un avocat d'office était généralement désigné. Et en fonction de la gravité de ce qui leur était reproché et des preuves réunies, les sanctions pouvaient être aussi lourdes que pour les humains. La peine capitale était d'ailleurs souvent prononcée. Les actes d'accusation allaient de l'infanticide au délit d'opinion. Les ravages de récoltes par les insectes étaient pris en compte par les juges. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la zoophilie et qu'on appelait à l'époque les crimes de bestialité conduisaient en général les auteurs et les victimes d'ailleurs au bûcher. Autrement dit, les animaux étaient censés connaître la différence entre le bien et le mal. Les acquittements étaient rarissimes, mais il y en a eu, et on vous racontera tout à l'heure avec les invités de l'heure du crime ce soir quelques-unes des affaires les plus spectaculaires dont on se souvient encore aujourd'hui dans de nombreuses régions. Et j'ajouterai que parmi les animaux les plus condamnés à travers les siècles, on trouve le cochon, les pourceaux, la truie, nos plus proches cousins génétiques, autrement dit avec les grands singes. Et nous reviendrons en détail tout à l'heure sur le procès d'une truie coupable d'avoir grièvement mordu un nouveau-né. Une truie dont l'exécution a d'ailleurs été suivie par de nombreux éleveurs afin qu'ils expliquent, c'est les juges qui leur avaient demandé qu'ils expliquent à leurs animaux, à leurs cochons, ce qu'ils risquaient à l'avenir en cas de récidive. Voilà, si j'ose dire, le menu de l'heure du crime pour ce soir. On a eu vraiment que l'embarras du choix. On va parler d'une truie normande. J'ai déjà évoqué le sujet il y a un instant. Une truie tueuse d'enfants. Mais il y a aussi dans notre bestiaire un perroquet ch'ti contre-révolutionnaire et surtout trop bavard. Un chien par parisien royaliste, une brebis auvergnate pleine de charme, c'est une histoire de bestialité comme on disait à l'époque, et puis des chats maudits, des dauphins trop envahisseurs dans le port de Marseille, des fourmis brésiliennes aussi, un âne parisien bien têtu qui était un employé de la ville de Paris. Bref, vous allez découvrir un certain nombre d'histoires tout à fait réelles, authentiques, et nous devons cette émission, et je voudrais la remercier tout de suite en l'accueillant dans l'heure du crime, nous devons cette émission à Chantal Knecht. Bonjour madame.
Bonjour.
J'ajoute que vous êtes productrice de documentaires, auteur d'un livre que vous nous avez envoyé, vous avez bien fait. C'est un livre qui vient de paraître il y a quelques jours chez Plon, dans la collection L'Abeille, hein, ça ne s'invente pas évidemment.
Ça ne s'invente pas, les animaux restent entre eux.
Voilà, et le titre est très clair, « Des animaux ». Au prétoire, et vous nous confirmez donc en fait que vous avez répertorié un peu plus d'une centaine de procès d'animaux à travers les siècles, et vous nous confirmez tout de suite que c'était des vrais procès, pas des simulacres.
Quand on dit qu'on en a recensé une centaine, disons que un petit peu moins ont été développés, beaucoup à la fin du Moyen Âge et surtout à partir du XVIe siècle. Sauf que moi, à travers les archives et toutes les recherches que j'ai pu faire dans les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, c'est très riche. On recense même des procès, mais c'était, vous savez, dans des longues listes, même dès le 9e siècle. Mais pour pouvoir étoffer un petit peu le sujet, on peut parler évidemment des procès pour lesquels il y avait des archives judiciaires un petit peu plus élaborées, et en particulier dans les cas que vous avez cités. Et moi, j'ai souhaité, en faisant ce livre, parler un petit peu des plus représentatifs, parce qu'il y avait trois grands types de procès, les procès laïcs, comme ceux des cochons, les procès ecclésiastiques, qui concernaient des masses, par exemple des insectes qui ravageaient les récoltes. Ouais. Là, c'était plus compliqué de les mettre dans un tribunal, donc on les exorcisait, on les excommuniait. Et puis, comme vous l'avez justement précisé aussi, les procès qui concernaient les relations sexuelles entre les hommes et les animaux.
Ben voilà, c'est les trois grands oui. thèmes, effectivement, qui ressortent quand on commence à vouloir recenser ces procès. Et je le disais il y a un petit instant, au début de l'émission, évidemment, l'animal qui a été le plus, qui est vraiment numéro un, oui, de parade, des condamnés par la justice des hommes, c'est le cochon. Et nous en parlerons dans cette émission tout à l'heure avec Michel Pastoureau, que je voudrais saluer tout de suite. Bonsoir, Michel Pastoureau.
Bonsoir Jacques.
Alors, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle, à la fois des couleurs, mais aussi de l'histoire culturelle des animaux. Vous avez, pour nous, ce soir, surtout, été l'auteur d'un livre qui fait partie de mes livres de chevet, « Le roi tué par un cochon ». C'est un livre que vous avez publié aux éditions du Seuil, il y a quelque temps, et où vous racontez une histoire alors qui n'a pas donné lieu à un procès. Tout à l'heure, vous pourrez développer largement, mais on va donner quelques éléments tout de suite. C'est l'histoire d'un jeune homme, en fait, ce roi qui revient de la chasse, qui est dans Paris sur son cheval, et puis un cochon déboule sous les pas du cheval, le cheval se cabre, et le jeune homme se tue en tombant du cheval. Il avait 15 ans, hein, je crois.
Voilà, oui, ce n'est pas n'importe quel jeune homme, c'est le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, et il a déjà été, selon l'usage, couronné sacré roi de France, donc ce jeune homme, en fait, est déjà roi de France, associé au trône, et ce cochon qui s'est mis dans les pattes du cheval a complètement changé le cours de l'histoire de France. Nous sommes en 1131, c'est trop tôt pour faire un procès à un animal, un procès avec des archives, c'est presque un siècle trop tôt. Les procès commencent à être bien documentés dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
Voilà, alors on reviendra sur cette histoire tout à l'heure, et puis aussi sur une grande question, mais que vous aborderez, que Chantal Knecht, évidemment, abordera aussi à travers telle ou telle histoire qu'elle va nous raconter, c'est que, pourquoi on traîne les animaux en justice ? Ben c'est parce que on est persuadé que les animaux distinguent le bien du mal, et quand on fait le mal, on doit être puni. Alors c'est un petit peu un raccourci là que j'emploie maintenant, mais tout à l'heure, on développera tout ça ensemble. Et puis, à 20h45, nous serons en ligne avec Alain Bougrain-Dubourg, qui est le président de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Alain Bougrain-Dubourg consacre, on peut le dire, sa vie à la défense de la cause animale, mais il se fait aussi le porte-parole, en dehors des animaux, de la voix de la nature, si j'ose dire. Et j'avais envie de lui poser une question ce soir, je l'ai appelé, il m'a dit d'accord, il sera donc là à 20h45, parce que, en fait, on peut se demander quand même si dans les conditions actuelles des attaques répétées contre la nature et les animaux ne seraient pas fondés maintenant à faire quelques procès aux hommes. Comment ça pourrait se dérouler ? Il va nous dire ça tout à l'heure.
L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Des animaux dans le prétoire, c'est-à-dire l'histoire de procès réels faits à des animaux à travers l'histoire, à travers les siècles. Et en fait, je disais tout à l'heure, et on va retrouver maintenant Chantal Knecht, que la plupart de ces procès ont eu lieu, comme le disait Michel Pastoureau il y a un instant, à partir du XIIIe siècle, mais jusqu'au XVIIIe. Mais on va s'avancer beaucoup plus près de la période contemporaine au cours de cette émission, puisqu'on a même un âne, Chantal Knecht, qui était un employé municipal de la ville de Paris, je crois, mais qui a été véritablement condamné, alors pas en cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel en 1905, je crois.
Oui, en 1905, bon, la loi de la laïcité n'était pas loin, mais il appartenait à un fonctionnaire de la ville de Paris, donc il transportait des marchandises, etc. Puis à un moment donné, dans les rues, il a été pris d'une espèce de folie, il se rebellait, il faut dire que son maître le frappait assez souvent, donc il a renversé des hommes, des femmes, et donc il a été mis en procès et condamné. C'est probablement un des derniers. Il y a eu aussi aux États-Unis, à Long Island, l'éléphant de Topsy qui avait été condamné, qui venait d'un cirque, qui avait été condamné par la chaise électrique de l'inventeur Edison. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet.
Oui, voilà. Mais là,
donc, ce qui est intéressant.
Oui, je vous en prie.
Pardon. Non, ce qui est peut-être une des seules tentatives, en tout cas sur le fait de donner véritablement un avocat à un animal, ce qui est quand même incroyable, puisque le plus souvent, on condamne plutôt le propriétaire. C'est-à-dire maintenant, si on parle d'un sujet d'actualité, comme par exemple le pangolin et la chauve-souris, c'est plutôt l'homme qu'on condamne pour les déforestations, etc. Ce n'est pas l'animal, proprement dit, même si on a un petit dégoût pour le pangolin. Mais par exemple, en Suisse, en mars 2010, il a été question, un avocat s'était présenté pour défendre les animaux. Et les votations, comme on dit en Suisse, la votation a été refusée, mais c'était quand même à deux doigts que la loi ne passe.
Oui, et absolument.
C'est assez intéressant, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2010.
Alors, l'histoire certainement la plus célèbre, en tout cas celle qui a été évidemment analysée, disséquée, racontée par beaucoup d'historiens, parce que tout simplement on peut se procurer aux archives départementales. On est en Normandie, enfin c'est la fameuse truie de Falaise. On sait tout sur cette histoire qui avait démarré un 24 décembre en plus, mais de quelle année à propos?
De 1385. Ouais. C'était la veille de Noël, 1385. Je précise peut-être une chose, c'est que aussi extravagant que pourraient paraître ces procès de mettre en jugement un animal, il faut quand même pas oublier que, enfin en tout cas préciser, que ça se passait dans une France, ou même en Europe, puisque d'autres pays ont été concernés, dans une France rurale. Hein, donc les beaucoup d'animaux, et en particulier les porcs, comme vous l'avez bien dit, étaient quand même familiers, proches des paysans, et dans une France chrétienne. C'est-à-dire que même s'il y a eu des procès laïques, la truie de Falaise en étant, les références bibliques étaient quand même assez importantes, et surtout dans les plaidoiries.
Bien sûr. Alors, oui. Revenons à la truie de Falaise. Alors, en fait, c'était un accident malheureusement banal, comme il devait s'en produire beaucoup à l'époque, puisque il y avait beaucoup de cochons qui étaient qui divaguaient, dans les villes, dans les villages aussi.
C'était des vagabonds.
Et là, il y a un enfant très jeune, je crois, qui va être qui va échapper à la surveillance de ses parents pendant un certain temps. Et cette truie va mordre cruellement cet enfant.
Oui, elle vagabonder dans la ferme, dans les rues. Elle s'aventure dans une ferme. Elle découvre un enfant qui est seul dans un berceau. Elle lui arrache un bras. Elle lui tailla de la moitié du visage et elle s'enfuit. Bon, le bébé est mis à terre, il est découvert par sa mère. Ça, c'est un peu l'histoire que je raconte. Il est découvert par sa mère et immédiatement la truie est recherchée. Et là commence la mise en place d'un procès qui est complètement calqué sur les procès des hommes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on l'emprisonne, on la met dans une espèce de cage près des prisonniers humains d'ailleurs. On lui donne une date de procès début janvier et surtout la mise en procès, on lui donne un avocat pour qu'elle puisse se défendre. Les hommes et les animaux, il y avait une espèce de parité un peu implicite, c'est-à-dire que, ils ont été créés par Dieu, mais enfin bon, donc ils ont les mêmes droits, donc on les met en procès, puis voilà. Bon, enfin, il ne faut pas exagérer, l'animal était toujours condamné.
Oui, voilà, absolument, parce que l'avocat commis d'office n'a pas été très performant, parce qu'il n'a pas évité la peine capitale à sa cliente, si j'ose dire. Et si je parle de cliente, c'est parce qu'elle a été évidemment condamnée à mort, mais plus plus que cela, puisque à l'époque, la torture était une habitude de la justice. Elle va être littéralement, on va lui causer les blessures qu'elle avait causées à l'enfant, c'est-à-dire que ça va être un spectacle absolument horrible. Et ensuite, on va l'habiller avec des vêtements, je crois, de femme, et on va la trimballer un peu partout. Elle va être traînée sur une clé à travers la ville pour l'exemplarité, finalement. Et on va obliger, la justice va obliger les éleveurs du coin, ceux qui ont des élevages de cochons, à venir avec leurs cochons assister, en fait, à la mise à mort.
Voilà, il y avait toute une parade qui était organisée autour de la charrette qui supportait la truie déguisée en humain, en fait, avec des vêtements d'humain. Et surtout, on avait demandé à tous les cochons de la commune de Falaise d'être présents, qui s'en moquaient parfaitement. Hein. Et puis, et les parents devaient être là, parce qu'en même temps, comme on était un petit peu dans des rapports un peu de Dieu, etc., on reprochait aussi aux parents de ne pas avoir surveillé suffisamment leur enfant dans le berceau. Donc, il fallait qu'il soit là pour les culpabiliser un petit peu et qu'ils voient bien tout ça. Donc, la truie est traînée sur une charrette. Elle est pendue par les jarrets. À ce moment-là, on fait appel à un bourreau, comme c'était le cas qui était assisté de son fils. Bon, les bourreaux étaient bourreaux de père en fils. Ouais. On lui enlève les vêtements. Et là, comme vous l'avez dit, la truie subit les mêmes mutilations que celles qu'elle avait infligées au bébé. Puis le corps est jeté au feu. Voilà, ça c'était la condamnation absolue de cette truie.
Et alors, il faut dire que donc dans les archives départementales, on a gardé la mémoire de ce procès, mais cette mémoire, elle a profondément marqué les esprits dans toute la région, parce qu'il y a une fresque qui a été peinte sur un des murs de l'église, je crois, de Sainte-Trinité de Falaise.
Oui, voilà. Sur le fronton de l'église Sainte-Trinité, mais je crois bien, je crois que Michel Pastoureau pourra le confirmer, mais je crois bien qu'au fil du temps, il y a eu beaucoup de travaux sur cette église.
Oui. Et
le fronton de cette église a été recouvert de travaux de peinture, de chaux. Bon, ce serait peut-être intéressant de la retrouver maintenant, je ne sais pas. c'est le procès le plus, peut-être le plus connu, et en tout cas le plus typique, puisqu'il concernait les cochons.
Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL.
Le bestiaire de l'heure du crime ce soir, une émission un peu atypique bien entendu, qui ne nous fait pas quitter les prétoires ou les cours de justice, ni même la corporation des avocats, ni celle des bourreaux, puisque la peine capitale a été quand même pendant des siècles l'ultime condamnation qu'exerçaient les hommes sur ceux qui avaient commis les crimes les plus graves. Et Michel Pastoureau, je le disais tout à l'heure, qui connaît particulièrement bien aussi, si j'ose dire, l'histoire de ce mal-aimé de la justice que représente le cochon, raconte dans son livre le roi tué par un cochon, une histoire qui n'a pas donné lieu à un procès, nous a expliqué pourquoi tout à l'heure, puisque on est au XIIe siècle et que, en fait, c'est à partir largement 100 ans plus tard qu'on va commencer à condamner des animaux. Mais en revanche, Michel Pastoureau, cette histoire est là, c'est par rapport à l'historien que vous êtes, et l'historien des cultures de l'homme et de l'animal. C'est une affaire qui a profondément marqué, on peut le dire, l'avenir de la royauté, la suite de l'histoire des rois de France.
Oui, c'est une grande date que ce 13 octobre 1131, le cochon vagabond qui s'est mis dans les pattes du cheval du fils du roi de France, déjà sacré lui-même roi de France, a changé le cours de l'histoire de France, parce que ce jeune prince est mort. Donc 6 ans plus tard, c'est son frère qui va monter sur le trône, le roi Louis VII, qui n'est pas du tout préparé à son métier de roi. Il était destiné à l'état ecclésiastique. et le règne de Louis VII, qui est très très long, 43 ans, c'est un règne catastrophique à tout point de vue, croisade malheureuse, divorce avec Aliénor d'Aquitaine, lutte et échec contre le roi d'Angleterre à plusieurs reprises, bref, c'est un règne terrible. Et alors, la mort du jeune prince Philippe en 131 avait été ressentie dans toute l'Europe comme une mort infâme, parce que c'était un vulgaire cochon domestique qu'il avait provoqué. Si le jeune prince était mort à la chasse, tué par un sanglier, c'était une mort héroïque, noble, presque. Ouais. Mais là, c'est un vulgaire pourceau, c'est vraiment une souillure qui s'est abattue sur la famille royale, la monarchie française et même le royaume de France.
Et il fallait donc laver cette souillure d'une certaine manière.
Voilà, il fallait laver la souillure. Le roi Louis VII et son entourage ont tenté beaucoup de choses, d'où la croisade, la deuxième croisade, qui a été un échec. Et finalement, on a fait, une vingtaine d'années plus tard, ultime recours, appel à la Vierge, qui est devenue la patronne du royaume de France. Le roi de France a même épousé symboliquement la Vierge. Et on lui a emprunté ses deux attributs iconographiques, la fleur de lys et la couleur bleue, pour fabriquer les premières armoiries royales. Et le bleu est resté la couleur de la France, d'abord sous la monarchie, puis sous la République. Donc, je m'amuse à dire dans mon livre, mais ça n'est pas si amusant que ça, que si tous les sportifs français jouent aujourd'hui en maillot bleu sur tous les terrains de sport du monde, c'est probablement à ce cochon régicide qu'on le doit.
Oui. Mais dites-moi, Michel Pastoureau, pourquoi est-ce que... Alors, le cochon, on a compris qu'il y avait beaucoup de cochons qui étaient en liberté à l'époque, un peu partout dans les rues des villes, dans les villages. Oui, voilà. Mais pourquoi il devient l'ennemi public numéro un ? Il y a autre chose, j'imagine, non ? C'est l'animal impur par excellence.
Je pense qu'il est trop proche de l'homme. Et c'est ça qu'on lui reproche, pas explicitement, mais tacitement. Au Moyen-Âge, il y a deux animaux qui sont pensés comme très proches de l'être humain. L'ours et le cochon. Le cochon pour des raisons internes. Dans les écoles de médecine, l'anatomie du corps humain s'étudie en disséquant le cochon ou la truie. Et donc, il y a une proximité qu'on connaît et qui est très, très gênante. En outre, le cochon, il est sale, il regarde toujours vers le sol et pas vers le ciel. Il mange des choses épouvantables. Bref, c'est un animal impur. Il ne fait pas de cochonnerie au sens sexuel. Ça va apparaître plus tard. C'est le chien qui est l'animal sexuel. Mais quand le chien se revalorise, à partir du XVIe siècle, il faut le débarrasser de ses vices supposés. Alors le vice sexuel, on le déverse sur le cochon qui n'y était pour rien, mais ça fait un vice de plus.
Alors
souligner, c'est que la médecine contemporaine confirme tout à fait que le porc est notre cousin, peut-être le plus proche avec les grands singes, et que probablement tous les tabous qui entourent cet animal viennent de ce cousinage à la fois biologique et physiologique.
Alors, cela dit, encore un mot avant la pause, Michel Pastoureau. Je disais tout à l'heure que les acquittements ont été très rares, mais il y a eu des acquittements parce que, en fait, la justice faisait vraiment son travail. On établissait des preuves, on débattait de la responsabilité de l'animal, etc. Et il y a eu un acquittement qui concernait un cochon qui avait été accusé d'avoir tué un enfant, mais cet enfant était tombé, en fait, dans l'enclos du cochon en se penchant par curiosité. Il n'avait pas été, mordu par ce cochon qui ne lui voulait pas de mal, en fait.
Moi je connais 7 acquittements de cochons. J'ai beaucoup travaillé sur ces procès faits aux animaux. Et il y a quand même des avocats efficaces jusqu'en plein XVIe siècle qui obtiennent acquittement. L'argument est un peu toujours le même, c'est-à-dire que le cochon s'est comporté comme se comporte un cochon, donc c'est pas de sa faute, il réagit comme ça. Et pour d'autres animaux, cet argument est avancé aussi, même pour les insectes qui ravagent les récoltes, au fond ils ne font que ce qu'ils doivent faire. Ça revient assez souvent dans ces procès. Il faut le souligner, ces procès faits aux animaux ne sont pas extrêmement fréquents. Moi, j'en ai recensé pour 3 siècles et demi pour le royaume de France 68. Et je crois que l'idée, c'est de montrer la bonne justice qui s'étend jusqu'aux animaux. Ça voilà. Doit être exemplaire, mais c'est quand même pas des affaires très fréquentes.
Jacques Pradel sur RTL.
Et nous retrouvons Chantal Pnecht, donc l'auteur de « Ces animaux au prétoire », livre qui vient de paraître aux éditions Plomb, comme on l'a dit dans la collection L'Abeille. Alors, parlons deux secondes des procès ecclésiastiques. Bon, on sait qu'il y en a eu beaucoup. Mais en fait, alors, on condamnait en chaire le dimanche les curés condamnaient, comment dire, au nom de l'Église, des insectes parfois qui mettaient à mal les récoltes des hommes. Et là encore, il y avait un souci de grande justice, hein, je crois, Chantal Pnecht.
Oui, là, c'était un petit peu plus compliqué, parce que comme c'était des masses d'animaux, en particulier les insectes, mais ça s'est vu aussi pour les rats, les mulots, d'autres types, mais là, ça concernait quand même les cultures des paysans, c'est-à-dire que ça faisait référence aussi aux grandes peurs de l'époque, et entre autres la famine. Donc ça, c'était un petit peu plus compliqué. Et alors là, c'était des procès ecclésiastiques, et les juges, ne pouvant pas, évidemment, prendre un ver, un insecte, un charançon dans un tribunal, il fallait condamner les masses d'animaux. Donc, il y avait soit les anathèmes, le plus souvent c'était des exorcismes, c'est-à-dire on essayait, les curés allaient à travers les champs et faisaient des sermons en essayant d'enlever les démons des corps de tous les insectes, ça c'était très amusant. Ou alors c'était carrément, ce qui est encore pire, c'était le stade ultime, c'était l'excommunication, c'est-à-dire on présupposait, s'il y a excommunication, on présupposait que les animaux c'était partis de la communauté chrétienne. Donc, en les excommuniant, on les enlevait de la communauté chrétienne. Or, c'est voilà. Tout le côté extravagant et amusant de ce type de procès-là.
Ouais, mais quand je parlais de ce souci de justice, avant d'en venir à l'extrême condamnation, donc que vous venez d'évoquer, l'excommunication, on proposait aux villageois ou aux viticulteurs, là je pense à l'histoire en Bourgogne, de donner carrément, de désigner un lopin de terre ou pour que les animaux puissent quand même continuer à se nourrir. Bon, alors on va pas épiloguer. Je renvoie tout le monde à votre livre pour ça, parce que je vois le temps qui passe et je voudrais vraiment que vous nous parliez maintenant de ce perroquet ch'ti. Alors ch'ti, pourquoi? Parce que ça se passe sous la Terreur en 1794 à Arras. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est un marquis. Alors être marquis en 1794,
il était en grand danger, mais il était
quand même extrêmement royaliste et il avait un perroquet. Alors est-il exact qu'il avait appris à son perroquet à dire vive les prêtres, vive les nobles, vive le roi, alors que on avait quand même guillotiné le roi trois ans avant, quoi?
Ah oui, mais c'est-à-dire que le perroquet avait été éduqué comme ça, je suppose même avant la Révolution française. Donc à chaque fois qu'il y avait les amis prêtres qui venaient voir ce fameux marquis, eh bien le perroquet les accueillait en disant vive les prêtres, etc. Et quand à un moment donné, bon, la situation change au dehors, que toute la famille du marquis s'installe à Arras, on installe le perroquet dans un salon, et il aimait bien être dehors sur la fenêtre, à regarder les gens, etc. Et grand malheur pour lui, à un moment donné, il tombe sur des soldats contre-révolutionnaires qui chantent et qui dansent la Carmagnole. Alors ça a été le tournant dans la vie et du perroquet, puisque lui, il comprenait pas, on faisait référence à Louis, mais Louis, c'était son roi favori, etc. Donc, il continue à dire vive le roi, vive les prêtres, etc. Donc il est, pour aller vite, il est très rapidement appréhendé. Et la conclusion de tout ça, c'est que si on a affaire à un perroquet royaliste, forcément c'est maître Leçon. Bon, il y a d'autres péripéties que je raconte, mais
oui,
pour
sûr,
aller très vite. Donc la famille du marquis est royaliste. Mais c'est encore une fois, on condamne l'animal en premier. Donc on le met dans un tribunal, et là, il ne dit pas un mot. Il est sur le perchoir des accusés, il ne dit pas un mot. Le marquis, qui est déjà emprisonné, qui est dans les bancs publics, est très content parce que son perroquet ne le dénonce pas. Bon, pour aller vite aussi, toute la famille du marquis est guillotinée, évidemment. Mais le perroquet n'est pas guillotiné, il n'est pas condamné. Alors, pour une fois, c'est pour ça que j'aime bien cette histoire aussi, parce que bon, le perroquet ne meurt, l'animal ne meurt pas. Et on se demande bien qu'est-ce qu'on peut faire de ce perroquet. Donc, on finit par le confier sur jugement, le tribunal révolutionnaire. Il est donc jugé, et la conclusion du jugement, c'est on le confie à une dame révolutionnaire qui lui apprendra toute sa vie à dire « Vive la nation, vive le peuple ».
Voilà, c'est absolument
voilà
magnifique.
L'histoire du perroquet voilà. qui est très drôle.
Je voulais qu'on la pointe au passage. Il y a eu d'autres histoires pendant la Révolution française, mais là, on n'a pas le temps ce soir de tout les aborder. Je renvoie tout le monde, évidemment, à votre livre qui est très riche. Et vraiment, quand vous racontez les histoires, vous les racontez vraiment par le menu. Mais il y a l'histoire d'un chien qui appartenait à un propriétaire de bistrot qui était lui-même contre-révolutionnaire et monarchiste et qui envoyait ce chien qui était quand même assez redoutable avec des petits messages codés dans son collier. Et finalement, là aussi, la police de l'époque a fait une descente dans le bistrot. On a trouvé des listes de contre-révolutionnaires et ça a valu le pire destin possible à ce propriétaire de bistrot. Et nous allons maintenant retrouver Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, mais pas que. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir Jacques.
Alors, je disais tout à l'heure que vous consacrez votre vie, finalement, en tout cas votre vie professionnelle, à être le porte-voix à la fois des animaux et de la nature. Vous êtes l'auteur de deux livres que je voudrais signaler, qui sont pour moi des petits bijoux. Dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire le plus ancien, L'être des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Je trouve ce titre absolument formidable. Alors c'est pas du La Fontaine, hein, c'est pas écrit en vers, mais ce sont, et d'ailleurs votre première lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes est signée par un cochon, hein, je crois.
Et oui, ce sont les cochons qui s'expriment, ça nous renvoie un peu à la conversation de tout à l'heure, et qui plaident leur cause d'une certaine manière, mais bon... On n'est pas là pour parler de mes bouquins.
Non, mais je voulais quand même le signaler au passage, parce que ça montre quand même que le cochon est quand même vraiment le plus mal aimé des animaux. Et puis alors, le livre qui vient de paraître, en fait, aux éditions Les Échappées, comme le précédent, On a marché sur la terre, journal d'un militant, c'est le sous-titre, et de janvier à décembre 2019, vous avez tous les jours de l'année écrit à propos d'histoires, d'informations que vous aviez. Et je recommande vraiment la lecture de ce livre à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Alors, je voudrais vous dire, vous savez, je ne pouvais pas me passer de cela. J'avais envie, je l'ai dit au début de l'émission, de vous poser la question. Alors, bon, c'est vrai que pendant des siècles, on a condamné les animaux. Est-ce que les animaux pourraient maintenant intenter des procès aux humains? Je crois qu'il faut surtout dire que, de plus en plus de décisions de justice sont prises par les hommes, évidemment grâce à des associations comme la vôtre ou comme d'autres, et qui, d'une certaine manière, permettent aux animaux de faire condamner les hommes pour des pratiques. Je pense par exemple aux pratiques aux lois qui interdisent l'expérimentation animale. Et vous m'avez, quand je vous ai appelé, parlé d'une histoire qui s'est déroulé en 2011, l'histoire d'un singe qui est dans un zoo. Il y a un photographe qui vient faire un reportage. À un moment, le singe se saisit de l'appareil photographique et il fait un selfie. Ce selfie a été publié dans la presse mondiale et des associations, je crois, ont saisi la justice pour que un certain pourcentage des droits d'auteur de cette photographie faite par le singe sur lui-même soit consacré à verser un peu d'argent aux zoos pour améliorer la condition animale.
Mais on a d'autres exemples un peu singuliers quand même. Tout récemment, en Espagne, le village de Trigueros del Valle, c'est en Castille, a décidé d'accorder aux chiens et aux chats des droits, on va dire, comparables à ceux des hommes en les définissant comme des résidents non humains. Alors le maire a tout simplement estimé que les animaux cohabitent depuis plus de 1000 ans avec les résidents de ce petit village et que par conséquent, il doit aussi bien, lui, le maire, représenter les humains que les non-humains. Ouais. Et puis on a bien d'autres choses. Ça, c'est quand même, on avance beaucoup. Un orang-outan, vous savez qu'il en reste 80 000 dans la nature, c'est pas beaucoup, détenu par un zoo en Argentine. Il a été libéré en 2016 car la justice a estimé que sa privation de liberté était tout simplement illégale. Il s'est passé la même chose pour un autre orang-outan de 29 ans qui était né en Allemagne. On a vu en Inde également en 2013 que le gouvernement s'est prononcé contre la captivité des dauphins, interdisant tous les delphinariums dans le pays. Et puis on pourrait parler de l'utilisation des grands singes, désormais interdits en expérimentation animale en Angleterre, en Outre. Pourrait parler de Maurice Lecoq.
Ah, Maurice Lecoq, ça c'est le coq de l'île d'Oléron. Il y a une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maurice Lecoq ?
Il s'est passé qu'il faisait son rôle de coq. Tous les matins, il chantait de belle heure avec une voix enthousiaste qui dérangeait des voisins. Paris, pour tout dire. Bon, oui. En tout cas, ses voisins ont fait un procès et Maurice a gagné en 2019. Il a même eu 1000 euros de dommages et intérêts. Alors, quand même, ce qu'on peut dire globalement, pour pas être trop long, Jacques, oui. C'est qu'il dessine oui. quelque chose d'intéressant. C'est la Cour internationale des droits de l'animal qui a été créée en 79 par Franz Weber, que j'ai bien connu. Il s'occupait des bébés phoques à l'époque. Bon, oui. Et puis, tout simplement, il est prêt à condamner des gouvernements, des présidents de républiques qui se comporteraient mal à l'égard des animaux. Et puis surtout, là c'est très important, le Tribunal international des droits de la nature qui a été initié durant la COP21 et qui vise à donner une voix à la Terre pour reconnaître les droits de la nature. Et on pense que ça peut faire son bonhomme de chemin et qu'il pourrait y avoir finalement un tribunal pour la nature, pour la faune, pour les animaux, ouais. qui pourrait être comparable aux crimes de l'humanité, vous voyez.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Est-ce que les pangolins et les chauves-souris pourraient se révolter contre tout ce qui a été dit sur eux dans leur responsabilité éventuelle dans l'épidémie qu'on vit encore ?
Qui n'est pas tranché, mais effectivement, ce sont des animaux victimes. D'abord parce qu'on les a arrachés à leur milieu naturel, ensuite parce qu'on les a confinés dans des conditions insupportables de douleur, d'agonie, que sais-je encore. Et je crois que des voix s'élèvent. Et parmi ces voix, on compte énormément de scientifiques pour dire plus jamais ça. Alors, le pangolin, qui est un animal nocturne, tranquille, fourmilier, qui ne se préoccupe pas des hommes, il a qu'une envie, c'est de s'en retourner dans ses forêts et que on l'oublie pour l'avenir. Je crois qu'il faut cesser tous ces marchés de la honte. Moi, je l'ai filmé à Taïwan, en Chine, au Bénin, au Cameroun, en Amérique du Sud. Ce sont des bouillons de culture pour ce type de pandémie et c'est évidemment l'agonie et la souffrance du monde animal.
Je vous remercie beaucoup. Je renvoie donc ceux qui vous écoutent ce soir à cette lettre, à ces lettres des animaux, à ceux qui les prennent pour des bêtes, et puis à votre dernier livre, donc On a marché sur la terre, journal d'un militant, les deux livres parus aux éditions Les Échappés et qui permettront aux uns et aux autres, avec le livre évidemment de Chantal Knecht, dont nous avons beaucoup parlé ce soir, Les animaux au prétoire, qui permettront donc à ceux qui nous ont écoutés, de prolonger un petit peu le sujet de l'émission de ce soir. Merci beaucoup, merci Adam Bougrain-Dubourg, merci Chantal Knecht et Michel Pastoureau, lui est l'auteur de ce livre « Le cochon qui a tué un roi », dont je vous recommande également la lecture. Voilà, l'émission est maintenant terminée, vous êtes sur RTL.